On peut dire effectivement qu'une culture de la confiance est un ingrédient qui favorise l'émergence de la prise d'initiative et de l'intrapreneuriat. Je pense que devenir intrapreneur, c'est un long parcours. Ça veut dire aussi être persuadé qu'il n'y a pas besoin d'être le patron pour changer l'entreprise.
Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Cette citation résume assez bien le projet des Argonautes, celui de soutenir les entrepreneurs qui donnent du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le micro des Argonautes, une série d'escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur vision.
Bonjour, je m'appelle Nicolas Cordier, je suis en charge du business impact social chez Leroy Merlin en France. Et aujourd'hui, nous allons parler d'intrapreneuriat, et plus particulièrement d'intrapreneuriat social, ce qui rejoint plus mon expérience. Voilà, donc ça fait une trentaine d'années que je travaille. J'ai passé, pour faire simple, 10 ans en Amérique latine, au Chili, où j'ai notamment fait du microcrédit comme première expérience professionnelle qui réunissait du coup impact social et logique d'entreprise et de gestion. Puis, depuis une vingtaine d'années en France, donc 10 premières années chez Leroy Merlin sur différents métiers, on va dire classiques. Et au bout d'une dizaine d'années, j'ai finalement, par un concours de circonstances et par choix personnel, décidé de créer mon propre job, finalement, en tant qu'intrapreneur. Mais ça, je l'ai découvert qu'après. Chapitre 1, qu'est-ce que l'intrapreneuriat ? Alors, un intrapreneur, c'est finalement un entrepreneur à l'intérieur d'une organisation. Bon, c'est un terme qui est apparu effectivement ces dernières années, plutôt pour essayer de mettre un nom sur différentes formes de prise d'initiative de certains collaborateurs qui, plus que, je dirais, de remplir le cahier des charges d'une mission bien définie, souhaitent bouger les lignes à l'intérieur de leur organisation pour créer un projet, une activité nouvelle qui n'était pas dans le cadre défini du métier d'entreprise jusqu'à présent. On parle beaucoup d'un monde en crise, et derrière cette sortie de crise qui est si souvent annoncée, on pourrait se dire que les choses vont revenir à la normale, après coup. En fait, je pense qu'on est vraiment dans un monde en plein bouleversement. C'est un changement de monde, on est dans un monde de plus en plus complexe. Les experts de l'armée américaine parlent du monde VUCA, hein, donc un monde volatile, incertain, complexe, ambigu. Et donc, je pense que face à ces profondes mutations, toutes les organisations doivent pouvoir se réinventer. Alors du coup, la question centrale, c'est de dire, si nous n'allons pas faire dans les années qui viennent le métier tel que nous l'avons exercé par le passé, il va falloir s'adapter, innover. C'est à la fois une conscience qu'il faut avoir et en même temps, on est plutôt habitué à continuer à exploiter le métier tel qu'on l'a toujours fait. Voilà. Donc on est avec l'intrapreneuriat comme avec le sujet de l'innovation sur finalement quelque chose qui est à la fois nécessaire, mais à la fois qui vient déranger et bousculer. Et en tout cas sur le terme innovation, il y a ça fait plutôt bien de s'afficher comme étant une entreprise innovante. Mais dans le fond, innover, c'est bousculer des habitudes et on n'a pas tellement envie de changer nos manières de faire bien souvent. Et donc, au final, la culture d'entreprise a quand même une certaine capacité en général à restreindre ces innovations, mais du coup aussi l'émergence d'intrapreneurs. Chapitre 2, l'intrapreneuriat ne se décrète pas. La présence d'intrapreneurs, c'est d'abord une culture d'entreprise qui permet à des collaborateurs de s'emparer d'un sujet et de dire « je pense que ça vaut le coup de bousculer peut-être certaines pratiques habituelles et en tout cas de proposer quelque chose de différent. » Que ce soit un regard différent, que ce soit des manières de faire différentes ou explorer des territoires finalement un petit peu nouveaux. Voilà. Et donc, je pense qu'effectivement, dans des cultures d'entreprises qui ont quand même tendance à essayer d'être de plus en plus processées, standardisées, d'essayer de mettre en place les fameux KPI ou OKR, on cherche à modéliser finalement le métier et la manière de l'exercer. C'est bon et c'est bien pour l'exploitation du métier tel qu'on le fait. Il faut veiller à ce que ce soit pas un frein pour s'adapter à ce monde qui change. Et ça, quelque part, c'est dans la culture de l'entreprise qu'il faut pouvoir laisser de la place à des intrapreneurs qui vont peut-être venir proposer quelque chose de différent. Un élément essentiel, me semble-t-il, pour pouvoir laisser de la place à l'initiative individuelle ou à l'initiative de petits groupes de collaborateurs sur des choses nouvelles, c'est d'abord d'être conduit par une vision. de savoir clairement quel est le cap de l'entreprise et au-delà des process, au-delà de ce qui est fait au quotidien, qu'est-ce qui nous réunit ? On est là pour quoi ? On est là pour servir qui ? Et je pense que si on arrive à planter le drapeau du cap qu'on veut se fixer, alors c'est beaucoup plus facile, je dirais, de libérer les énergies autour de projets qui vont venir contribuer à cette mission haute, finalement, de l'entreprise. Derrière, il y a aussi évidemment des valeurs de confiance, de droit à l'erreur, de créativité, d'engagement, de responsabilité qui vont favoriser l'émergence d'intrapreneurs parce que, quelque part, un intrapreneur qui n'arrive pas à s'exprimer au sein de son organisation, il y a de fortes chances qu'il la quitte et qu'il aille entreprendre ailleurs. Donc, il y a là aussi un enjeu, je pense, à la fois d'engagement et puis de rétention des talents au cœur de l'entreprise pour qu'ils puissent exprimer leur potentiel, leur responsabilité, leur créativité, leurs idées dans le sein de l'entreprise et au service de la mission collective. On peut dire effectivement qu'une culture de la confiance est en tout cas un ingrédient qui favorise l'émergence de la prise d'initiative et de l'intrapreneuriat. Je pense que ça demande aussi une confiance de la part de l'intrapreneur. Confiance dans son organisation, dans ses managers, mais confiance surtout aussi en lui-même. « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde », disait Gandhi. Quelque part, cette invitation à aussi se connecter avec notre feu sacré personnel, parce que c'est pas non plus un long fleuve tranquille, hein. Je pense que devenir intrapreneur, c'est un long parcours. Ça veut dire aussi être persuadé qu'il n'y a pas besoin d'être le patron pour changer l'entreprise et que chacun à sa place peut contribuer à la faire évoluer. Et pour ça, une des difficultés, je pense, pour l'intrapreneur, c'est de ne pas oublier son rêve en route, quelque part. C'est-à-dire de ne pas... Enfin, il faut un peu lutter, parfois à contre-courant, contre la culture en place et l'activité telle qu'elle existe jusqu'à présent. Alors, on pourrait se poser la question de savoir si l'intrapreneuriat est possible, quelle que soit la taille de la structure. Est-ce que dans une start-up, une PME, c'est la même chose que dans une grande entreprise ? Les grosses entreprises sont plus lourdes à bouger, même si elles ont parfois peut-être plus de ressources et qu'il y a peut-être matière à pouvoir dédier des ressources sur des champs d'exploration, hein, plus que d'exploitation du quotidien. Et en même temps, on voit bien que dans les petites structures, dans les start-up, il y a aussi une plus grande capacité, même s'il y a moins de ressources, mais à faire évoluer les modèles et à s'adapter en permanence. Chapitre 3, l'intrapreneur. Une espèce hybride entre la girafe et le castor. Être intrapreneur, c'est être capable de combiner des compétences qui paraissent un peu en opposition. C'est à la fois être explorateur, mais être diplomate, être passionné et en même temps être patient pour faire bouger les lignes, être agile dans des structures parfois rigides, être utopiste et en même temps pragmatique. Finalement, c'est être des classiques alternatifs. Voilà, je donne un peu ces définitions qui paraissent un peu la description d'un mouton à cinq pattes, mais qui donnent un peu à voir toute l'ambiguïté qu'il peut y avoir derrière le fait de faire bouger les lignes de l'intérieur dans des contextes où, effectivement, les entreprises aujourd'hui, pour évoluer et s'adapter à ce monde qui bouge, se doivent d'être ambidextres, c'est-à-dire de pouvoir à la fois exploiter le business as usual, la manière de créer de la valeur jusqu'à présent, et en même temps d'explorer de nouveaux possibles à long terme. Dans mon parcours chez Leroy Merlin, il y a eu d'abord la volonté de réconcilier impact sociétal au cœur de la logique économique de l'entreprise et d'amener du coup cette approche de social business ou de business à impact social. Ça a été un parcours d'expérimentation d'abord, d'ouvrir des voies nouvelles dans les représentations qu'on peut se faire du social et du business. Et on pourrait dire aussi qu'un intrapreneur, finalement, c'est un peu un corporate hacker. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir hacker l'entreprise, c'est-à-dire utiliser ses ressources internes au service d'un projet un peu disruptif, en décalage avec ses pratiques actuelles. Pour reprendre après des mots que Pamela Artigan et John Ellington avaient décrits dans un des premiers ouvrages sur l'intrapreneuriat social, un peu comme la girafe, l'intrapreneur social a les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Avec une hauteur de vue qui lui permet de voir venir les opportunités et les saisir au vol, tout en gardant une approche pragmatique solidement ancrée dans le terrain et dans la connaissance interne de l'entreprise. Et il parlait également d'espèces hybrides avec une personnalité de castor. Vous savez que les castors construisent leur habitat à partir de ce qui est présent dans l'environnement. Et donc finalement, l'intrapreneur construit de nouveaux modèles, aménage de nouveaux circuits de création de valeur sociale pour l'écosystème qui l'entoure en prenant les ingrédients qui s'y trouvent. Alors pour se lancer quelque part dans un projet d'intrapreneuriat, il faut quand même qu'il y ait un minimum de cadre, une ouverture. Chez Leroy Merlin, en ce qui me concerne, c'était un projet du directeur général à l'époque qui, en 2011, avait lancé tout un programme qui s'appelait « Innover pour inventer demain », invitant un certain nombre de cadres de l'entreprise à partir à la rencontre des habitants du monde, chercher les projets qui feraient l'entreprise de demain. Donc, c'était un premier cadre institutionnel, officiel, et voilà, donc, le groupe dans lequel j'étais impliqué dans cette démarche est revenu avec ce projet de dire comment rechercher des solutions pour les habitants en précarité au niveau de leur logement, qui ne sont donc par essence pas clients de nos magasins, en partenariat avec des acteurs sociaux de terrain, au cœur de la logique compétitive de l'entreprise, c'est-à-dire avec une viabilité économique de nos modèles d'intervention, comment pouvons-nous trouver des modalités d'impact positif au cœur de nos métiers. Voilà. Donc, présenter ce projet-là, c'est fait d'abord dans un projet d'entreprise. Après, bien évidemment, on était là sur quelque chose d'assez nouveau et il a fallu d'abord montrer de la motivation sur le sujet. Donc, ne pas lâcher la bonne idée, présenter avec beaucoup d'enthousiasme lors d'une réunion, mais de pouvoir à la fois rencontrer les différents acteurs avec lesquels nous pourrions développer de nouveaux projets, aller voir aussi ce qui se passait dans d'autres secteurs d'activité, dans d'autres entreprises, pour aller m'inspirer sur de nouveaux modèles de création de valeur, et puis initier assez rapidement des premiers projets concrets, certes imparfaits, mais qui venaient en tout cas donner de la matière et du concret à une intention. Voilà. Donc l'intention était fortement posée, la concrétisation, même à petite échelle, est très vite importante pour pouvoir démontrer quelque part, illustrer le fait que autre chose est possible. Voilà, alors j'ai quand même mis plus de 18 mois à avoir mon poste sur ce sujet, et je dirais un peu comme tout entrepreneur, si j'avais eu une idée de création d'entreprise en dehors de mon job, eh bien, j'y aurais consacré mes soirées, mes week-ends. Ben, c'est un peu ce que j'ai fait au niveau d'un projet. Simplement, c'était un projet d'intrapreneuriat parce que, en même temps, je crois en la force de l'entreprise et la capacité qu'elle peut avoir de démultiplier des projets à plus grande échelle, notamment sur le terrain de l'impact sociétal. Alors, l'initiative de développer le business à impact social chez Leroy Merlin a à la fois suscité de l'intérêt parce que, quelque part, ça fait sens, ça rejoint des valeurs et ça répond, je pense, à une aspiration de beaucoup de collaborateurs de dire, mais finalement, à quoi on sert, à quoi on est utile, et si l'entreprise peut avoir une mission d'utilité sociale au service du bien commun, c'est super. Et à la fois, beaucoup d'incrédulité ou de questionnement lié au fait de dire, mais est-ce que ça fait partie des choses sérieuses dont on doit s'occuper ? Réconcilier l'économique et le social, est-ce que c'est juste possible ? Et je pense que c'est certainement un des premiers freins qui est dans nos représentations mentales que nous avons de qu'est-ce que le social, qu'est-ce que le business ? Et puis d'essayer aussi peut-être de sortir d'un aspect social qui ne serait que possible le soir, le week-end ou le jour où on est à la retraite, mais de dire non, c'est également possible de mettre nos compétences dans le cœur de nos métiers au service d'un impact sociétal positif. Chapitre 4, conclusion. Je ne suis pas sûr que l'intrapreneuriat puisse se décréter dans une organisation, même si on peut favoriser. Certaines grandes entreprises ont d'ailleurs mis en place des programmes d'intrapreneuriat pour faire émerger à la fois une nouvelle culture et puis aussi des projets et dire, signifier aux collaborateurs qu'ils pouvaient prendre toute leur place. Indépendamment de ça, je pense qu'en tout cas, en tant que patron d'entreprise, dirigeant d'entreprise, si vous avez des collaborateurs qui veulent entreprendre quelque chose de nouveau, veillez à leur laisser des marges de manœuvre et à ne pas mettre trop vite des KPI, c'est-à-dire de vouloir évaluer trop vite quelque chose qui est encore en cours de gestation. Ce sera bien temps, une fois qu'on sera dans de l'exploitation, de pouvoir mettre un certain nombre d'indicateurs de performance. Mais vérifier que le projet est bien en phase avec la mission de l'entreprise, que ça va créer de la valeur pour le service des clients. Et une fois que c'est là, au pire, ça marche. Au pire, ça marche. Je pense que c'est un premier bon KPI pour accompagner des intrapreneurs dans leur projet.
Merci de nous avoir accompagnés sur cette escale. Le micro des Argonautes, un format proposé par le MEDEF de Lille et la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée.